Nous avons terminé l'épopée des Camisards et nous sommes arrivés en 1715. 1715, c'est la mort de Louis XIV. C'est la fin d'une époque. On pourrait penser que la mort de Louis XIV va bouleverser quelque peu la situation des protestants. En fait, rien ne sera fondamentalement remis en question, dans ce sens que Louis XIV, quand il meurt, bien qu'il ait de nombreux enfants, notamment de très nombreux bâtards, vu toutes les femmes qu'il a eues, il y en a qui sont morts, etc., tant et si bien que l'héritier de la couronne à la mort de Louis XIV est un jeune garçon qui n'a pas atteint sa majorité, le futur Louis XV, et il n'est donc pas question, bien entendu, qu'il prenne les rênes de l'État. Et par conséquent, il y a une régence qui est établie pendant la minorité du jeune Louis XV. Donc c'est un régent, n'est-ce pas, qui va prendre la succession des affaires. Le régent n'a pas de toute façon des coudées très franches, dans la mesure où il est là pour faire une transition, en fin de compte, n'est-ce pas ? Et il ne remet pas en cause les lois qui ont été celles de Louis XIV, notamment la révocation des édits de Nantes, la religion prétendue réformée, comme on l'appelle dans les hautes sphères de la cour, continue à être une religion interdite. Néanmoins, il est certain que la mort de Louis XIV va quelque peu émousser la répression. La répression ne sera plus aussi sévère qu'elle ne l'était du vivant du roi. Il va y avoir deux éléments qui vont militer dans ce sens-là, outre le fait que le régent n'est plus Louis XIV, n'est-ce pas ? La première, c'est la crainte d'une reprise de la révolte des Camisards. Le pouvoir royal, jusqu'à la veille de la Révolution française, vivra dans la terreur, véritablement terreur panique, d'une reprise de la révolte des Camisards si à nouveau on pousse les protestants à bout. Si bien qu'avec le temps, une tolérance de fait va s'instaurer, qui sera sanctionnée finalement par Louis XVI en 1785, quand il accordera le fameux édit de tolérance. Donc une tolérance de fait. En fait, c'est un grand mot que de parler de tolérance de fait. C'est une répression moindre qu'il faut dire. Bon, le pouvoir sait bien qu'il y a des manifestations illégales de la religion prétendue réformée, mais jusqu'à un certain point, il ferme les yeux. Il réprime les manifestations les plus voyantes, si vous voulez, de l'activité protestante. On pend de temps en temps un pasteur, on en roue un autre, on en brûle, on disperse de temps en temps une réunion illicite, etc. Mais ça n'a plus le caractère implacable que ça avait du temps de Louis XIV. Bon, au point de vue, par exemple, des galères, le nombre des condamnations aux galères tombe considérablement à partir de 1715. Et puis, les prisonniers, les galériens, sont libérés relativement plus vite en échange, n'est-ce pas, de cautions qui leur sont payées par les gens du refuge en particulier, quoi. Le deuxième élément qui va amener un adoucissement de la condition des protestants en France, ce sont les Lumières. Le XVIIIe siècle est un siècle où apparaît une philosophie nouvelle, la philosophie dite des Lumières, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Les philosophes du XVIIIe siècle vont mettre en avant l'idée de la tolérance, à savoir qu'il y a une relativisation de toutes les croyances, qui aboutira d'ailleurs à la Révolution française, et finalement qui aboutira à notre situation moderne. C'est, pas c'est le début de la pensée moderne, le XVIIIe siècle, n'est-ce pas ? Et s'il y a une relativisation de toutes les croyances, notamment, n'est-ce pas, du christianisme en soi. Les philosophes du XVIIIe siècle, les philosophes éclairés, comme ils aiment à s'appeler eux-mêmes, n'est-ce pas, ne sont plus du tout certains de la vérité du christianisme, et une nouvelle idéologie pointe, le déisme, c'est-à-dire qu'il y a la foi dans un être suprême, un Dieu créateur, le Deus ex machina. Mais ce Dieu n'a pas grand-chose de commun avec le Dieu de la Bible, avec le Dieu du christianisme, et notamment la révélation biblique est mise en doute, mise en question, comme un tissu et un fatras de légendes, de mythologie, etc. Donc, il y a une mise en question du christianisme en soi par les philosophes des Lumières. Et les philosophes des Lumières aiment aussi à souligner l'importance de la nature. Le culte de la nature, n'est-ce pas, va naître au XVIIIe siècle, qu'on retrouve aujourd'hui avec certains courants écologiques, par exemple. Et puis, de la fraternité humaine, une vision qui va au-delà des frontières. Tous les hommes sont frères, etc. Les grandes idées de la Révolution française vont naître de cette philosophie des Lumières, liberté, égalité, fraternité. Les hommes sont égaux. Et finalement, les opinions dans le domaine philosophique et religieux se valent. Il y a une relativisation de la notion de vérité. La seule vérité qui vaille est la vérité scientifique, mais la vérité philosophique est éminemment discutable. Si par conséquent il en est ainsi, à quoi bon se battre pour des questions dont on n'est pas sûr, en fin de compte ? Et en même temps, pourquoi persécuter des gens qui professent des opinions qui, après tout, sont des opinions qui en valent d'autres ? Et c'est ainsi que naît l'idée de la tolérance. Idée qui, d'ailleurs, est profondément biblique, mais chose curieuse, n'est-ce pas ? Les chrétiens avaient oublié cette idée, et il faudra que ce soit des néo-païens, si je puis dire, n'est-ce pas ? Qui se fassent les champions de cette idée de la tolérance. Ça, il faut le dire bien, bien, bien fort, et à la honte du christianisme, n'est-ce pas, il a fallu que ce soit les philosophes du XVIIIe siècle qui aident à redécouvrir cette notion de la tolérance. Les droits de l'homme, tout ça, c'est le fruit de la philosophie des Lumières et non pas du christianisme, en tout cas directement. Indirectement, bien sûr, sans même s'en rendre compte. Les philosophes des Lumières étaient influencés par le christianisme, mais c'était indirectement. Alors, il y a cette idée de la tolérance qui fait son chemin petit à petit dans les idées, qui va aboutir à la Révolution française, mais qui déjà agite pas mal les esprits dans la première moitié du XVIIIe siècle. Et notamment face au coup de boutoir des philosophes, notamment des gens comme Voltaire, Diderot, Rousseau, d'Alembert et d'autres, n'est-ce pas ? Surtout Voltaire. Voltaire fera beaucoup dans ce domaine-là et on aura l'occasion de revenir sur la fameuse affaire Calas qui va être un tournant pour le protestantisme français. Le pouvoir va avoir de plus en plus de mauvaise conscience à faire de la répression. Les philosophes des Lumières vont réussir à culpabiliser le pouvoir royal quant à la persécution des protestants. Et c'est pourquoi cette persécution va devenir de plus en plus lâche. Il va y avoir, en fin de compte, un petit peu comme c'était au temps de la persécution romaine dans les premiers siècles du christianisme, il va y avoir des périodes où, soudain, n'est-ce pas, le pouvoir tape sur la table et on dit maintenant, il y en a assez, les protestants relèvent trop la tête, il faut les abattre à nouveau. Et il va y avoir pendant quelques années une période de répression forcenée. Puis après, ça se relâche. Et puis aussi, sur le plan local, beaucoup va dépendre des petits fonctionnaires locaux, des officiers de police, les seigneurs, qui ont, dans leur juridiction, il suffit qu'il y ait un seigneur ou un officier de police qui soit un catholique fanatique et puis va faire régner la terreur dans sa juridiction. Alors à ce moment-là, il suffit de quitter cette juridiction-là, d'aller dans celle du voisin, qui lui peut être quelqu'un qui est influencé par les idées des philosophes, les idées de la tolérance, et puis qui lui va fermer les yeux sur l'essentiel de ce qui se passe. Alors voyez-vous, ça dépend beaucoup de l'arbitraire des fonctionnaires locaux. En fin de compte, la période qui suit 1715, je veux dire, peut se qualifier de lutte pour la liberté religieuse. Dès la mort du roi, le 21 août 1715, Antoine Court convoque à Montvert, près de Saint-Hippolyte-du-Fort en Cévennes, le premier synode qui a suivi la révocation des Dix Nantes. Premier synode secret, synode du désert, n'est-ce pas, pour reconstituer le protestantisme. Il profite évidemment de la mort du roi et de la période un petit peu de flottement qui suit, n'est-ce pas, la mort du roi et la mise en place des institutions nouvelles. Le 22 ou 1721, un nouveau synode, pardon, le 22 mars 1721, un nouveau synode a lieu à Saint-Hippolyte, cette fois-ci, qui rassemble essentiellement les églises du Languedoc. Et ces deux synodes vont adopter 29 articles pour la restauration de l'Église réformée en France. Ces articles refusent tout ce qui n'est pas basé strictement sur la Bible. Et bien entendu, dans le collimateur, il y a là les prophètes, c'est évident. Refuser ce qui n'est pas biblique, c'est refuser notamment les inspirations prophétiques. Et les deux synodes de 1715 et de 1720 vont être des synodes qui, sur le plan du réveil charismatique qui a marqué le réveil des Cévennes, vont être assez catastrophiques parce qu'ils vont tout simplement étouffer, on peut dire d'une manière très ferme, l'esprit jusqu'à nos jours au sein des églises réformées. Il n'est plus possible d'avoir des responsabilités sans que ce soit reconnu officiellement par les synodes. C'est-à-dire que les synodes mettent fin au régime des prédicants et des prédicantes, d'ailleurs, n'est-ce pas, puisqu'il y avait aussi des femmes, nous l'avons vu, qui exerçaient ce ministère, entre guillemets, et au ministère des prophètes. Les ministères, maintenant, doivent être officiellement reconnus. Et pour pouvoir être reconnu comme pasteur officiellement des Églises réformées de France, il faut d'abord avoir fait un stage de proposant. On est d'abord reconnu comme proposant sous la responsabilité d'un pasteur ancien, puis ensuite prédicant. Et enfin, on est reconnu pasteur, auquel cas on reçoit une ordination par imposition des mains des autres pasteurs présents. Et c'est donc quelques années plus tard, ainsi que nous l'avons vu la dernière fois, en 1728, qu'Antoine Court crée son séminaire à Lausanne, reconnaissant qu'il n'était pas possible de former sur le tas seulement des pasteurs, mais qu'il fallait aussi donc qu'ils aient une formation théologique profonde et sérieuse, laquelle ne pouvait pas se donner au désert. Il avait essayé, nous l'avons vu, de créer un séminaire du désert, mais en fait ça n'avait pas marché. Et il crée donc le séminaire de Lausanne, ainsi que nous l'avons vu la dernière fois. Quelques mois avant sa mort, 14 mois très exactement, Louis XIV avait à nouveau proclamé que tous les protestants de son royaume s'étaient convertis. Il prenait ses rêves pour des réalités, et constamment ça lui revenait comme une véritable obsession. Il faut dire que Louis XIV avait fait de cette question de la réduction du protestantisme presque une question de son salut. Et les dernières années de sa vie, les derniers mois de sa vie, Louis XIV était préoccupé par la question de son salut. Il avait quelques raisons de l'être, d'ailleurs, vu la vie qu'il avait menée jusqu'auparavant. Et pour lui, il espérait faire son salut en persécutant les protestants. Si bien que les derniers 14 mois de la vie de Louis XIV ont été extrêmement durs pour les protestants. Le régent, lui, par contre, est peu dévot. Et l'arrivée au pouvoir du régent provoque un répit pour les protestants qui permet justement la reconstitution dont Antoine Court est la cheville ouvrière. Antoine Court était un homme qui était originaire de Villeneuve-du-Berg. Il était secondé par Pierre Cortès, C-O-R-T-E-I-Z. Et nous l'avons vu, le premier synode du Gard avait pour but de lutter contre le prophétisme. Et c'est ainsi qu'au cours de ce premier synode, deux prédicateurs sont refusés. Deux prédicateurs qui ont nom Vesson et Huc, H-U-C et Vesson, V-E-2-S-O-N, pour une simple raison, c'est qu'ils étaient aussi prophètes. Et le fait d'être prophète était disqualificatoire. Ça montre à quel point d'exacerbation on en était arrivé, n'est-ce pas, dans la lutte contre le prophétisme cévenol. Ces gens qui étaient pourtant, ces deux hommes qui étaient des hommes sérieux, n'est-ce pas, des hommes qui avaient fait leurs preuves, parce qu'ils étaient prophètes, ont été refusés comme proposants. Il faut dire que l'un des deux aussi avait commis une faute grave contre la discipline des églises réformées. Il avait donné la Sainte-Seine dans une réunion du désert sans autorisation du synode. Et ça aussi, c'était quelque chose sur lequel le synode entendait mettre de l'ordre, réintroduire une discipline qui était une discipline de fer. Le rejet de Vesson et de Huc comme prédicateurs va être un cas de conscience pour Antoine Court en particulier, car quelque temps après le synode de Montesas, n'est-ce pas, les deux Vaisson et Hucques seront arrêtés, condamnés à mort et pendus. Et finalement, Antoine Court se reprochera d'avoir été si sévère avec eux, des hommes qui finalement ont scellé leur vie par le martyr. Entre 1715 et 1724, profitant justement de cette période de répit de la Régence, le protestantisme connaît un véritable réveil. Et en 1724, ce réveil est devenu tellement évident que les évêques du Languedoc en particulier s'en émeuvent. Et ils demandent et obtiennent une déclaration royale de 18 articles pour renouveler l'édit contre les protestants. Et à nouveau, en 1724, une nouvelle période de persécution va apparaître pour ce qui concerne les protestants. Antoine Court va entreprendre la résistance, mais une résistance pacifique. Une résistance qui est appuyée par l'Europe protestante et notamment le soutien financier de l'Europe protestante qui enverra des secours, par exemple, en particulier aux familles des martyrs. Un gentilhomme d'Alès, qui est un protestant convaincu, est envoyé par Antoine Court, il se nomme Benjamin Duplan, et il est envoyé auprès des puissances protestantes comme avec le titre de député du synode, n'est-ce pas, auprès des puissances protestantes pour faire la liaison justement et pour coordonner des pressions diplomatiques sur le pouvoir français pour l'amener à relâcher la pression sur les protestants. Et c'est ainsi que malgré la période beaucoup plus tendue qui suit 1724 et qui commence à cette période-là, le protestantisme continue à aller de l'avant. En 1729, le pasteur Bétine est envoyé depuis le Languedoc en Saintonge et en Poitou pour ressusciter les églises de l'Ouest. N'est-ce pas ? C'est très intéressant de voir que le Languedoc, c'est-à-dire les Cévennes, si vous voulez, qui ont été le centre de la résistance protestante, deviennent aussi le lieu d'où va partir la résurrection du protestantisme à cette période-là. En 1719, déjà, le pasteur Arnaud, puis le pasteur Alexandre Roussel avait rétabli l'église de Montpellier. C'est cette même année, 1729, que Antoine Court et Pierre Cortès quittent la France pour se consacrer à la formation des pasteurs, donc à Lausanne, dans le séminaire qu'ils ont créé. Donc nous avons deux grands événements qui marquent le début des années 1730 jusque vers l'année 1760, 30 ans, qui marquent une nouvelle période, si vous voulez, de l'histoire du protestantisme français, l'affermissement du réveil, le véritable réveil dans pratiquement toute la France. L'Église réformée va être rétablie dans pratiquement toute la France. Et puis en même temps, n'est-ce pas, devant cette prise de conscience d'une renaissance du protestantisme français, le pouvoir va se réduire et va avoir lieu ce qu'on appelle la grande persécution des années 1760. Bon, on appelle la grande persécution, elle est relative, bien sûr. Elle est moindre que les persécutions qui avaient marqué le siècle précédent, mais pour ceux qui l'ont vécu, bien sûr, c'était une grande persécution. En 1733, le pasteur Villa rétablit les églises dans la région de Castres, Montauban, Foix, n'est-ce pas ? C'est là aussi quelqu'un qui vient du Languedoc. Le pasteur Leroy, lui, va jusqu'à Bergerac, puis s'établit à Niort dans les années 1738-1740. Et la même année, un pasteur poitevin est expédié en Normandie pour ressusciter les églises de Normandie. En 1735, les églises de Provence sont rétablies. En 1736, celles du Béarn. Et en 1751, donc voyez-vous, plus on est proche du grand centre, plus la résurrection a lieu tôt, et plus on est loin, plus on va vers le nord, plus il faut attendre donc d'années pour que l'église soit rétablie. Par exemple, les églises de Picardie sont rétablies en 1751. En 1744, un synode a lieu à Lézignan, à cause d'une guerre, de la guerre étrangère, n'est-ce pas, qui fait que le pouvoir n'a pas la possibilité de réprimer ce synode. Et c'est en 1735, jusqu'à 1748, que le pouvoir déclenche la grande persécution devant justement la progression des églises réformées. Le début de cette persécution, c'est le meurtre de deux pasteurs qui président une assemblée secrète, les pasteurs Morel et le pasteur Fauriel, n'est-ce pas, qui sont tués par la maréchaussée dans une réunion clandestine qu'ils présidaient. En 1746, un autre pasteur est pendu. Et là, devant ce renouveau de la persécution, la révolte gronde. Et là, on est à deux doigts, n'est-ce pas, d'une reprise de la révolte armée, un petit peu comme les camisards. Les protestants se disent qu'ils ne permettront plus, n'est-ce pas, qu'on les décapite, comme ça avait été le cas au moment de la révocation des édits de Nantes. Et là, au moment de la pendaison de ce pasteur, n'est-ce pas, on frôle l'émeute, il n'y a pas de problème. Tant et si bien que le pouvoir comprend que s'il ne veut pas se retrouver devant une nouvelle révolte, il est obligé de lâcher du lest. Là, c'est le pasteur Paul Rabaut qui a succédé à Antoine Court, n'est-ce pas, comme chef de file, figure de proue du protestantisme français, qui s'oppose, n'est-ce pas, à une reprise de la révolte armée, malgré le fait que déjà il y a eu quelques actes de violence commis par les protestants à l'endroit des catholiques. En 1748, a lieu la paix d'Aix-la-Chapelle entre la France et les puissances allemandes avec lesquelles elle était en guerre, n'est-ce pas ? Et à l'occasion de cette paix de Aix-la-Chapelle, qui finalement a un effet négatif sur les protestants, c'est qu'elle libère le pouvoir des aventures extérieures et lui permet de rétablir l'ordre dans ses états. Et notamment, les évêques qui ont bien compris cela, les évêques, notamment les évêques du Sud, exigent que le pouvoir impose aux protestants le rebaptême des enfants huguenots. Contrairement d'ailleurs à la doctrine catholique dans ce domaine-là. Et en 1752, on voit à nouveau les tristement célèbres dragonnades, en particulier dans la région de Nîmes, où des enfants sont saisis de force, enlevés à leurs parents, baptisés de force dans le catholicisme et élevés ensuite dans le catholicisme. Un autre pasteur est arrêté, le pasteur Benzet, B-E-N-Z-E-T. Il est condamné à mort et pendu, et sa pendaison provoque une véritable révolte à Nîmes. Les assemblées du désert reprennent, avec des gardes armés, mais en général, les armes ne sont pas tellement là pour tirer sur l'éventuel maréchaussée qui viendrait perturber la réunion, ils sont plutôt là pour donner l'alarme, et en même temps peut-être pour faire un peu peur aussi aux soldats du roi. Ce n'est plus vraiment, on n'est plus dans la même mystique, n'est-ce pas, que la révolte des camisards. La page a vraiment été tournée. En 1848, le pasteur Arnaud est arrêté. Il est condamné à mort. Et là, alors, il est un des rares qui, pardonnez-moi l'expression, se dégonfle. N'est-ce pas ? Quand il arrive au pied de la potence et que le bourreau va lui passer la corde au cou, n'est-ce pas ? Il se met à trembler comme une feuille, il crie une tempête et il déclare qu'il abjure la foi protestante, qu'il est prêt à passer au catholicisme. Ce qu'il fait. Alors évidemment, c'est la consternation parmi tous les protestants qui sont venus assister à son exécution. C'est la jubilation, par contre, pour les catholiques, n'est-ce pas, qui l'exhibe, n'est-ce pas, comme une victoire, un trophée. Enfin, c'est un sur des dizaines et des dizaines, quoi. Hein. C'est un rare cas. Quant à ce pauvre Arnaud, n'est-ce pas, il est ensuite complètement culpabilisé par sa trahison. Et finalement, il fuit la France, à ses risques et périls, d'ailleurs, n'est-ce pas. Il se réfugie en Hollande, où il revient au catholicisme, il se repent, il passera le reste de sa vie, en quelque sorte, dans une espèce de s'habillement en confession, et restant culpabilisé pour le reste de ses jours, n'est-ce pas, de ce moment de faiblesse qu'il a eu là, devant la potence. En 1852, le pouvoir décide d'effectuer une enquête sur les protestants de Nîmes. Nîmes est en effet la grande, grande plaque tournante du protestantisme français. C'est là qu'il y a l'essentiel du réveil a eu lieu dans cette ville de Nîmes. Et un envoyé du pouvoir, du nom de Palmy, rencontre secrètement le chef de file des protestants, Paul Rabaut. Et finalement, on arrive à un certain accord, en ce sens que le pouvoir, effectivement, accepte de fermer les yeux, à condition que le protestantisme provençal ne se fasse pas trop voyant, quoi. On tolère en quelque sorte les réunions du désert, à condition bien sûr aussi que le protestantisme ne fasse pas trop de prosélytisme, etc., etc. Et c'est ainsi que, si vous voulez, à la fin de la décennie, en 1760, bien la grande persécution s'arrête plus ou moins. Bon, s'arrête plus ou moins parce que, encore une fois, si on fait trop de manifestations intempestives, ou si on a le malheur de tomber sur un mauvais coucheur quelconque, n'est-ce pas, un petit potentat local qui est mauvais coucheur, si on a le malheur d'être tombé, de pas avoir été assez vif, d'avoir traîné un peu trop longtemps dans une assemblée proscrite au moment où la maréchaussée arrive, tant pis pour soi, hein, là on peut se retrouver se balancer au bout d'une corde. Mais enfin, bon, il n'y a plus le même zèle persécuteur qu'il y avait auparavant. Néanmoins, cette période est marquée encore par la souffrance des protestants. Par exemple, les protestants, quand on les connaît comme tels, quand ils sont reconnus comme tels, sont privés de certaines carrières. Ils n'ont pas accès à certaines carrières. Ils ne peuvent pas vendre leurs biens sans une autorisation expresse du roi lui-même. Ils sont soumis à des amendes, à des vexations diverses. Ils sont soumis à des emprisonnements sur simple lettre de cachet. Hein? Bon, et les prisons sont remplies de protestants, la fameuse tour de Constance, on aura l'occasion d'y revenir, avec les prisonnières comme Marie Durand, qui sera emprisonnée pendant 38 ans. Certains sont emprisonnés pour des séjours plus courts, libérés après, contre une forte amende, libérés sur la pression de puissance de l'Angleterre, de la Hollande, de l'Allemagne, etc., etc. Alors, néanmoins, dans les principales prisons du royaume, il y a des prisonniers protestants, les principales prisons étant le fort du Haas, la Bastille, le fort de Vincennes, la prison de Rouen, de Dieppe, le château de Loches, le château de Saumur, à Nantes aussi, il y a beaucoup de protestants qui sont emprisonnés, les tours de La Rochelle, la tour de Crest, le donjon de Carcassonne, et puis évidemment la célèbre tour de Constance, qui est la plus célèbre de loin. Les protestants peuvent être aussi condamnés à subir la bastonnade. Et nous nous souvenons comment, dans les années 1700-1701, les bastonnades sur les galères, n'est-ce pas, avaient provoqué un tollé dans toute l'Europe protestante, qui avait fait en sorte que le roi avait dû faire cesser ces pratiques absolument barbares. On assiste aussi à cette période-là à une fuite des protestants qui profitent aussi de ce que les frontières sont moins surveillées pour fuir à l'étranger dans le refuge pour pratiquer leur religion. Et ce qui est nouveau, c'est que la fuite a lieu beaucoup plus loin que au siècle précédent. On assiste à des fuites jusqu'en Suède, par exemple, même en Pologne et même en Russie, jusqu'à Moscou. Il y a des protestants, on retrouve des protestants qui ont fui à cette période-là jusqu'à Moscou. C'est d'ailleurs l'époque aussi où mon ancêtre, Pierre Sozo, a essayé de fuir de France par La Rochelle, et malheureusement pour lui, c'était en 1715, c'était juste au moment de la mort du roi. Il a été arrêté par une patrouille avec sa famille. Lui et son fils ont été condamnés aux galères. Sa femme et sa fille ont été enfermées dans le couvent de Niort. Bon, comme c'était cette période intermédiaire, il a fait 4 ans de galère et puis ensuite il a été libéré contre paiement d'une caution par des frères de Suisse et il a pu terminer ses jours à Schaffhouse en Suisse, n'est-ce pas? Mais c'est pour dire que c'était pas encore malgré tout une époque de tout repos. Néanmoins, ce qui est, si vous voulez, quelque chose d'intolérable pour le pouvoir royal, c'est pas tant encore le problème religieux lui-même. Mais ce qui est inacceptable, c'est que c'est une brèche, si vous voulez, dans l'absolutisme royal. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'on admet la liberté de conscience, alors ça veut dire que le peuple a le droit de demander des comptes à son souverain. Or, justement, c'est petit à petit l'idée qui va naître dans la société française, et même dans la société européenne tout court, sous l'influence, justement, des philosophes des Lumières. Et va naître, au milieu du siècle, n'est-ce pas, même un peu avant, une notion nouvelle qu'on appelle le despotisme éclairé. C'est-à-dire qu'un certain nombre de souverains européens, par exemple Frédéric de Prusse, Catherine de Russie, Christine de Suède, n'est-ce pas, et un certain nombre de souverains européens vont adopter les idées des philosophes. Et petit à petit, on va vers l'idée, n'est-ce pas, que l'absolutisme royal, qui était un dogme dans toute l'Europe, n'est plus aussi absolu, si on peut dire, n'est-ce pas, qu'il ne l'était au siècle précédent. Et petit à petit, n'est-ce pas, la voie va être pavée pour une espèce de monarchie constitutionnelle, n'est-ce pas, qui va voir le jour au siècle suivant, en particulier au XIXe siècle. Alors, si vous voulez, là, nous avons une évolution tout à fait intéressante de la situation en Europe, et en particulier en ce qui concerne les protestants. Maintenant, il est évident que l'Exode entraîne un affaiblissement important, n'est-ce pas, des forces vives de la France, et notamment de l'Ouest. De l'Ouest partent beaucoup de gens en direction du refuge. Et c'est ainsi que l'armée et la marine, en particulier française, voient partir leurs meilleurs éléments à cette période-là. Donc, entre 1715 et 1723, a lieu la régence. En 1723, Louis XV prend lui-même les rênes du pouvoir et devient donc lui aussi, à l'exemple de son prédécesseur Louis XIV, un roi absolu. Lui ne sera jamais un despote éclairé. Il sera vraiment le despote au sens plein du terme. Néanmoins, il est freiné par rapport au sentiment de Louis XIV par la crainte d'une renaissance du parti protestant. On a peur, n'est-ce pas ? On a peur d'un État dans l'État. Ça, c'est toujours la crainte. C'est une crainte bien française. Ça, c'est pas la France et jusqu'à aujourd'hui a cette espèce de mythe de l'unité, n'est-ce pas ? Et tout ce qui viendrait remettre en question l'unité de la France, c'est quelque chose d'abominable, quoi. Hein. Prenez par exemple l'histoire du foulard islamique, c'est typique. C'était une brèche dans l'unité de la France et ça devenait, cette histoire du foulard islamique grotesque, n'est-ce pas, devenait un casus belli national, quoi. Alors c'est ça, dans l'esprit de Louis XV, c'est ainsi. Entre 1723 et 1760, nous avons vu, il y a une période d'hésitation. Le pouvoir alterne entre la répression et puis une certaine tolérance. En 1723, au moment où il prend où il commence son règne, on peut dire, Louis XV rédige une déclaration qui est en fait téléguidée par l'évêque de Nantes, qui renouvelle, n'est-ce pas, les instructions de Louis XIV, l'interdiction de la religion réformée, qui provoque donc la grande persécution dont nous avons parlé tout à l'heure, et en même temps un nouvel exode. Finalement, les protestants, chassés d'un peu partout pendant cette grande persécution, n'ont d'autre solution que de se réfugier dans les professions libérales. Des pasteurs, les pasteurs et les prédicateurs, et les prédicants, pour se servir de couverture, s'improvisent en général maîtres d'école. Et souvent, les maîtres d'école sont des pasteurs secrets ou déguisés. Ce n'est qu'en 1770 qu'il y aura une ouverture d'écoles protestantes et que les écoles protestantes seront plus ou moins tolérées. D'autre part, il y a un autre élément qui va aussi intervenir et qui va freiner un petit peu le zèle persécuteur des catholiques à cette période-là. C'est que finalement, la France, à la mort de Louis XIV, est ruinée. Elle est ruinée par justement l'exode, d'une part, ça jouait pour une grande partie. Il y a eu aussi des famines paysannes très importantes. Il y a eu les guerres de Louis XIV qui ont appauvri la France considérablement. Et puis aussi, il y a eu les guerres extérieures, je disais. Et puis, le fait que la France est en train de sombrer dans un espèce de marasme économique dû à la politique de grandeur du roi qui a saigné, n'est-ce pas, la France. La construction du château de Versailles a coûté une fortune, les fêtes royales coûtent une fortune, l'entretien de la cour qui est payé à ne rien faire si ce n'est à porter la culotte du roi, la chemise du roi le matin au petit lever, n'est-ce pas, et puis au grand lever. Bon, vous avouerez que entretenir des gens à faire ça, Bon, ça peut se discuter. Tant et si bien que la France, donc, est ruinée. Et alors, on se rend compte qu'en particulier, les couvents, qui sont entretenus aussi par le pouvoir, n'est-ce pas, n'ont plus les moyens financiers d'entretenir des prisonniers, de nourrir les prisonniers qui leur sont confiés, les prisonniers et prisonnières essentiellement, c'était plutôt des prisonnières qui étaient dans les couvents. Et que finalement, les nouveaux convertis ou les prisonniers, ça coûte cher de les entretenir. Et finalement, les couvents qui ont été ouverts pour accueillir tant les femmes que les enfants, n'est-ce pas, eh bien, ferment les uns après les autres. Ça, évidemment, c'est une très très grande victoire pour le protestantisme. Et alors, le premier synode de l'Ouest aura lieu en 1774 en Poitou. Pas donc quand même assez tard, quoi, hein, assez tard. Alors, si vous voulez, là, dans ce contexte-là, vont apparaître un certain nombre de figures marquantes du protestantisme français que nous allons voir maintenant, si vous le voulez, voir quelques après avoir fait une grande fresque générale de l'évolution donc du protestantisme jusqu'à un peu plus que la moitié du siècle, c'est pas 1760 environ. Nous allons revenir sur cette période pour voir un certain nombre de protestants marquants. Le premier point à souligner, c'est la famille Durand. La famille Durand, qui a été une famille très importante dans l'histoire du protestantisme français, avec trois noms, Étienne Durand, le père, et puis Pierre, qui fut un des pasteurs du désert, pasteur et martyr, et puis Marie, la jeune sœur. La famille Durand remonte au XVe siècle, est connue depuis le XVe siècle, et c'est une famille qui semble s'être convertie très tôt au protestantisme. À l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire au début du XVIIIe siècle, le dernier descendant de cette famille est Étienne, un homme dont la probité est reconnue par tous, de qui tout le monde rend un bon témoignage. Déjà, la maison de sa femme avait été démolie pour avoir abrité une réunion clandestine et elle-même va être emprisonnée à Montpellier. Pierre Durand, né lui le 12 septembre 1700, c'est-à-dire au début du siècle, et pendant toute cette période-là, la période donc des Camisards, la famille Durand suit très assidûment les assemblées du désert et notamment les fameuses inspirées, le réveil charismatique qui marque cette période-là. En janvier 1719, la famille Durand, Étienne et Pierre, le jeune Pierre qui a 19 ans à cette époque-là, n'est-ce pas, assiste à la fameuse assemblée du comte de Navalet, qui va être marquée donc par les événements que l'on sait et au cours de laquelle le jeune Pierre va être profondément marqué et il recevra sa vocation. Là, un certain nombre de pasteurs, notamment le pasteur Paul Rouvier, est envoyé aux galères et les Durand sont dragonnés comme ayant participé à une assemblée secrète. À cette époque-là, Marie, qui est beaucoup plus jeune, n'a que 4 ans, n'est-ce pas ? Elle va être privée de sa mère, qui, nous l'avons vu, va être emprisonnée et va être très profondément marquée aussi par cette situation-là. La guerre de succession d'Espagne, qui marque la fin du règne de Louis XIV, amène un répit pour les protestants. Et Pierre va, tout jeune, n'est-ce pas, devenir étudiant en droit, comme son père, qui est un petit juriste local, n'est-ce pas, et il va être formé pour prendre la succession de son père, donc dans le domaine du droit. C'est très intéressant de noter qu'il y a une plaque, une espèce d'armoirie de la famille sur la maison qu'on trouve toujours au collet, n'est-ce pas, dans l'Ardèche, avec cette inscription « Sauf Seigneur, nous périssons ». C'est vraiment le cri de l'Église sous la croix avec les disciples qui s'enfoncent dans l'eau au moment de la tempête apaisée. C'est le sceau des Églises sous la croix qui est là sur la maison de la famille Durand. Ça, c'était tout un programme, bien entendu. C'est le pasteur Jacques Roger qui est l'artisan de la vocation du jeune Pierre Et donc, entre le 29 et 30 novembre, janvier plutôt, 1719, à Combes de Navalais, 100 personnes se sont rassemblées dans la propriété de la veuve Caton. Et là, il y a une prédication de 2 heures. Le lendemain soir, nouvelle assemblée, mais un traître s'est glissé parmi les assistants. Et le traître a dénoncé l'assemblée, les dragons fondent sur cette assemblée-là, et nombreux sont ceux qui sont arrêtés, dont le pasteur qui est condamné. Quant à la maison familiale des Durand, eux-mêmes échappent, n'est-ce pas ? Mais la pierre parvient à s'échapper, mais la maison familiale est rasée. Jusqu'à aujourd'hui, non, le gros œuvre était tellement solide que jusqu'à aujourd'hui, le gros œuvre reste debout. Hein. Pierre, qui était un jeune homme déjà instruit, parvient à s'enfuir et il s'enfuit en Suisse. Là, il se réfugie chez des amis qui ont fui aussi la France, pendant que le pasteur Rouvier lui est condamné aux galères et il fera 16 ans de galère avant d'être libéré et puis de se réfugier en Hollande. En 1720, la surveillance se relâche un petit peu en Languedoc. Et c'est le moment où la situation va devenir beaucoup plus facile un petit peu. Et on profite, par exemple, de cette situation-là pour faire valider les mariages. Le problème des mariages est un énorme problème parce que les mariages du désert, bien sûr, ne sont pas reconnus par le pouvoir, on s'en doute. Et ceux qui se sont mariés au désert sont considérés par le pouvoir comme des concubins. Et alors, notamment, ça a un gros inconvénient, c'est que les enfants ne peuvent pas hériter des parents. Alors, le biais est tourné à partir de 1720 de la manière suivante, c'est qu'on se marie devant notaire qui établit un contrat. Un contrat pour les successions ou choses semblables, n'est-ce pas ? C'est la mort, si vous voulez, d'un mariage civil. Bon, le pouvoir, en renaclant, accepte cela. Et en fin de compte, ça va passer dans les mœurs. Donc, nous avons vu le jeune Pierre Durand, après l'Assemblée de Navarre, s'est enfui en Suisse. Et là, il va rejoindre le séminaire de Lausanne, le séminaire d'Antoine Court, où il va entreprendre des études de théologie. Bien entendu, on a souvent dit, avec raison, que ceux qui entrent au séminaire d'Antoine Court étaient aussi candidats aux martyrs. Et Pierre Durand n'échappe pas à la règle. Il est bien conscient que la restauration des églises de la Réforme en France, restauration à laquelle il est décidé à consacrer sa vie, eh bien, se fera par le sacrifice d'un certain nombre de pasteurs et de ses enfants. Au synode du 21 mars 1721, dont nous avons parlé tout à l'heure, Pierre Durand est présent et il représente le Vivarais. Et déjà, bien qu'il soit encore très jeune, il fait une grande impression, notamment auprès des pasteurs Pierre Cortès et Bonbonou, dont nous avons parlé la dernière fois. Bon, il est encore très jeune à cette période-là, mais pour lui se pose la question du mariage. Bien qu'il soit encore très jeune, Antoine Court l'a remarqué, et il lui a déjà donné de grandes responsabilités parce qu'il s'est rendu compte que c'était un jeune homme non seulement consacré mais d'une grande intelligence. Et Antoine Court l'envoie en Vivarais depuis Lausanne pour restaurer l'église du Vivarais. Et l'essentiel du ministère de Pierre Durand, comme beaucoup de pasteurs à cette époque-là, consiste à bénir des mariages au désert, qui était consommé depuis longtemps, un petit peu comme font les gitans, si vous voulez, encore aujourd'hui, mais qui attendait la présence d'un pasteur, selon la discipline qui avait été mise en place par Antoine Court, d'ailleurs, pour être officialisé. Il y a un état civil qui est tenu par les protestants eux-mêmes, mais bien entendu qui n'est pas reconnu par l'État, nous l'avons vu tout à l'heure, et Pierre ne se déplace jamais sans avoir avec lui le registre des mariages, sur lequel il inscrit les mariages. Et c'est ainsi que lui-même va se marier avec la fille du pasteur Rouvier, qui est aux galères, enfin le père, pas la fille bien entendu, s'appelle Anne Rouvier, qu'il épouse le 10 mai 1727. Anne Rouvier est bien consciente que épouser un pasteur du désert, c'est prendre un grand risque. Et c'est elle-même, évidemment, prendre un risque pour elle-même, et évidemment, voir le risque aussi de voir son mari arrêté. En effet, en 1729, le père, Étienne, est arrêté. Il est enfermé à la tour de Constance, d'ailleurs, où sera enfermée sa fille quelque temps plus tard. Et il écrit « Pierre n'hésite pas à écrire une lettre au commandant qui a arrêté son père » en disant qu'il est prêt à prendre la place de son père, il est prêt à aller en prison à la place de son père. Évidemment, c'est une pure folie que d'agir de cette manière-là. En fin de compte, sa lettre n'aura aucun effet, bien entendu. Si elle aura un effet négatif, c'est qu'un an plus tard, Marie va être arrêtée. Marie, sa sœur, pour une simple raison, c'est qu'elle est la sœur de Pierre. C'est la seule raison. Pierre va être, à partir de ce moment-là, un des pasteurs les plus recherchés de France, celui qui est considéré comme les plus dangereux, c'est-à-dire, en fin de compte, comprenez, un des plus consacrés, un des plus zélés. C'est l'époque où Paul Rabaut, commence son ministère, ministère en 1938. Et il faudra attendre 1765 pour que le danger soit un peu moindre pour Pierre. Devant le danger qui le menace, Paul Rabaut conseille à Pierre de faire attention et va jusqu'à désapprouver un certain nombre de ses projets missionnaires, n'est-ce pas ? Mais Pierre n'en tient absolument pas compte, il organise des synodes, des églises, etc. Quant à Anne Rouvier, n'est-ce pas, elle ne veut pas suivre le train d'enfer de son mari. Elle s'est réfugiée donc chez son beau-père, dans la maison de son beau-père plus exactement, qui est vide bien entendu, au boucher. Et il y a un épisode intéressant, par exemple, dans le journal de Pierre, il écrit que ce jour, 27 avril, il a renoncé. Et à la pipe, voyez-vous, ce n'était pas encore quelque chose qui était absolument clair à cette époque-là, donc dans le protestantisme. Et pendant 10 ans, donc, Pierre va se dépenser sans compter pour la restauration des églises en France. Et là, il va, au bout de 10 ans, il aura institué 3 pasteurs, 9 proposants et 36 anciens. Voilà les fruits de son ministère. Il sera lui-même le premier pasteur qui va être consacré au désert après la révocation. Et c'est ainsi que commence la deuxième partie de son ministère entre 1726 et 1732. À cette époque-là, les auditoires dans les réunions secrètes sont quand même encore restreints par rapport à ce qui était le cas au siècle précédent. Et il faudra attendre la décennie suivante pour que les rassemblements rassemblent plusieurs milliers de fidèles, par exemple aux portes des Cévennes ou à Nîmes ou dans des choses comme ça. Pierre reçoit d'une manière tout à fait particulière le droit de posséder un cheval en propre, ce qui était rare parce qu'il fallait surtout dans ces conditions une autorisation spéciale pour cela. Et alors évidemment, ça l'aide considérablement dans ses déplacements d'avoir un cheval. Et Pierre est un homme extrêmement sérieux et il va redonner aux églises réformées le sérieux qu'elles avaient un petit peu perdu. Le 30 novembre de cette année 1732, Antoine Cour vient faire une tournée en France. Et là, Pierre le pilote dans toutes les églises qu'il a créées. Et Antoine Cour est émerveillé de voir le travail qu'a fait son jeune disciple, n'est-ce pas, celui qu'il avait formé quand il était il était à Lausanne. Bon, c'est l'époque où nous avons vu, Pierre s'est marié, et Marie Durand, donc la sœur de Pierre, n'a pas vu ce mariage d'un bon œil. Non pas qu'elle avait quelque chose contre Anne, loin s'en faut, n'est-ce pas, elle reconnaissait que c'était une jeune fille consacrée, mais elle craignait, n'est-ce pas, elle craignait pour cette jeune fille, n'est-ce pas, elle craignait pour était à peu près certaine que son frère finirait mal, quoi, hein, et elle trouvait dommage en fin de compte que ce mariage ait eu lieu. enfin peu importe. Pierre continue sa vie errante, n'est-ce pas, dans des conditions extrêmement difficiles, avec un courage absolument indomptable. Et il y a un autre, outre toutes les souffrances qui sont les siennes, il y a un autre problème qui naît souvent, c'est le manque d'argent. Le foyer manque d'argent, bien entendu. On vit à la petite semaine. Et puis, quelques temps plus tard, naît une fille, hein, qui s'est prénommée Anne, également, n'est-ce pas, qui sera la seule enfant, n'est-ce pas, du couple Durand, et qui sera ensuite, après la mort de Pierre, la protégée de Marie. Marie lui écrira des lettres touchantes quand elle sera en prison, n'est-ce pas. Et finalement, elle sera assez décevante, cette fille-là, se révélera assez décevante par la suite, assez légère et pas du tout ayant le tempérament de ses parents. La mère d'Anne aussi, donc l'épouse de Pierre, ne voit pas ce mariage d'un bon œil et elle déshérite sa fille pour avoir épousé ce vagabond, cet homme, n'est-ce pas, sans fortune qu'est Pierre Durand. Et c'est en 1732 que Pierre va être arrêté, sur dénonciation, au gué de Venoux. Il tombe dans une embuscade. Pierre était armé, bien entendu, il avait toujours sur lui un pistolet. Et bon, il tombe dans cette embuscade avec son cheval. C'est pas, il est à cheval quand il veut traverser le gué. Et voilà que des soldats se précipitent, prennent la bride du cheval et puis le somme de descendre de cheval, lui signifiant qu'il est en état d'arrestation. La première réaction de Pierre, c'est de tirer son pistolet. Puis il se dit, je vais descendre ces pauvres gars qui sont là. Finalement, ils font ce qu'on leur a ordonné de faire. Bon, il n'a pas le cœur de tirer sur eux, quoi. Et finalement, il range son arme et puis il se laisse arrêter. Il se laisse arrêter. Et il est donc traduit devant un tribunal, devant des prêtres d'abord. Et là, on voit, n'est-ce pas, la rigueur morale de cet homme, n'est-ce pas. La première chose qu'il demande au prêtre, il demande pardon au prêtre. Parce que, dit-il, parfois dans des controverses, il s'est un petit peu trop échauffé. Il faut quand même, dans des moments pareils, c'est pas demander pardon à ses bourreaux pour s'être un petit peu échauffé contre eux, eh bien, il faut le faire quand même. Il a été arrêté à 11h du soir et il est emmené directement donc, en prison. Lorsque la nouvelle de l'arrestation de Pierre parvient aux protestants, ils vont monter une expédition pour essayer de le faire libérer, et dans une prison qui n'est pas trop, trop bien gardée, n'est-ce pas, et on espère pouvoir le faire libérer. Malheureusement, cette tentative de libération et d'autres tentatives échouent, et en fin de compte, ça n'aboutit à rien. Alors, bien entendu, Pierre est interrogé sur toutes les coutures, notamment pour qu'il livre ses collègues, il livre les noms de ceux qui assistent aux réunions, de ceux qu'il a baptisés, de ceux qu'il a mariés, etc., etc., etc. Et ça, bien entendu, Pierre refusera systématiquement de livrer, bien entendu, quelques noms que ce soit. Il est heureux qu'il n'ait pas été torturé, n'est-ce pas ? Il aurait pu l'être, et puis finalement, pour des raisons qui tiennent peut-être déjà à l'évolution des mœurs, à l'évolution des esprits, il ne sera pas torturé. Il y a des relations de son procès qui nous sont faites, n'est-ce pas, qui montrent que c'était un procès qui était fabriqué d'avance, il le savait bien, il savait bien qu'il était perdu. Et alors, son journal montre que, bon, il était homme, malgré tout, et à un moment, il a eu une défaillance, il a craqué dans sa prison, pensant à sa femme, à sa fille, etc. Et puis, il se reprend. Immédiatement, il se reprend. Et puis, pour tenir ferme jusqu'au bout, n'est-ce pas, il décide de se soumettre à un jeûne. Il jeûne pour avoir la force de Dieu de tenir ferme jusqu'au bout. Et il attend dans le calme et dans la paix sa condamnation qui arrive le 22 avril. Le 22 avril, il est condamné à mort. Il n'est même pas autorisé à écrire une dernière lettre à sa femme. Et on lui accorde 6 heures en tout et pour tout pour se préparer à la mort. Il est pendu le 22 août 1732, n'est-ce pas ? Il meurt avec un courage, n'est-ce pas, qui étonne et qui impressionne tous ceux qui assistent à son exécution. Il monte lui-même, n'est-ce pas, à l'échelle de la potence et il demande au bourreau de lui accorder simplement quelques minutes pour prier. Et là, sur les chefs de la potence, il fait une dernière prière, et puis quand il a terminé sa prière, il fait un signe au bourreau, le bourreau retire l'échelle et il meurt. Alors, c'est un cas, évidemment, qui avait profondément marqué le protestantisme français, parce que Pierre était un des jeunes espoirs du protestantisme français, était bien qu'encore très jeune, il était déjà un des leaders de la France protestante. Et c'est alors que donc sa jeune sœur Marie, qui a 15 ans à cette période-là, eh bien, va connaître aussi toutes sortes de déboires. Étienne, qui est enfermé, le père donc, qui a appris la mort de son fils, va faire en sorte que Marie se marie, si j'ose dire. Et Marie Durand va donc être mariée le 26 avril 1730. Avec un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle. En fin de compte, son mariage n'était pas un véritable mariage, si on prend dans ce sens-là. Son mari avait 50 ans, il aurait pu être son père, il avait l'âge de son père d'ailleurs, n'est-ce pas, elle en avait 15. Et en fin de compte, Étienne avait tenu à ce que Marie épouse cet homme parce qu'il pressentait, d'abord il n'était plus là pour s'occuper d'elle, la femme aussi, sa femme était en prison de son côté à Montpellier, Pierre était pourchassé comme un malfaiteur et allait mourir 2 ans plus tard sur la potence, et il avait pensé que marier ainsi Marie avec cet homme, ce serait en quelque sorte lui accorder un tuteur, un protecteur, un père, quoi. Le père qui n'était plus pour elle. Et en fait, c'est vrai, pour Marie, ce serait un peu ça, cet homme qu'elle épouse, quoi. Ce qui n'empêche pas que quelques temps plus tard, le 28 juillet, elle est arrêtée. Elle-même est née en 1716. Son père, donc, nous l'avons vu, était greffier et secrétaire de mairie, en quelque sorte, quoi. C'était une des rares professions qui était encore accessible aux protestants. Bon, Étienne Durand, nous l'avons vu, c'était un homme extrêmement pieux. Et il avait assisté à toute la première grande offensive, n'est-ce pas, contre les protestants à partir de 1670, quand le temple du Collet avait été brûlé. Et en 1715, donc, nous l'avons vu, il avait été annoncé qu'il n'y avait plus de protestants en France. Mais en fin de compte, les choses allaient évoluer de telle sorte que nous allions assister, nous avons vu, un réveil du protestantisme français. En 1715, un ordre est donné d'écraser donc les derniers fanatiques en les passant tous au fil de l'été. Et le 21 juin 1704, n'est-ce pas, le grand-père de Marie avait été arrêté et jeté en prison où il avait prophétisé. En 1720, les cérémonies catholiques avaient été arrêtées plus ou moins, et en fin de compte, les protestants avaient repris les leurs. Au moment de la Régence, au moment où la Régence s'était instaurée en France, les protestants y avaient vu une espèce de vision messianique, le début des temps messianiques. Un certain nombre de prophètes avaient d'ailleurs prophétisé dans ce sens-là, bien que le régent, bien qu'il n'était pas très, 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 très religieux ni très dévot, avait quand même sévi très fort contre eux. Et en fin de compte, nombre de protestants de la petite région d'où était originaire la famille Durand avaient été enfermés dans différentes prisons, notamment à l'île Marguerite. En 1718, un nouvel intendant était arrivé en Languedoc qui remplaçait Baville, le sinistre Baville qui était resté en poste jusqu'à cette époque-là, qui se nommait Bernage. Et donc Marie va grandir dans cet environnement-là. Vraisemblablement, ainsi que son frère, elle avait dû être baptisée catholique, ce qui était presque une obligation. Mais enfin, ça n'avait pas grande signification, évidemment, pour les uns et les autres. Le 22-23 janvier 1719, nous avons vu comment Marie, qui était âgée de 4 ans à cette période-là, avait assisté à l'assemblée prophétique clandestine au comte de Navarre. Là, qui avait été donc perturbé, et où le prédicant Rouvier avait été condamné aux galères perpétuelles. Elle suit donc pendant toute une partie le ministère de son frère. Elle est en pleine harmonie avec son frère dans ce domaine-là. Elle le soutient, elle tremble pour lui, bien sûr, mais en même temps, elle est parfaitement consciente que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, et que cette réorganisation des églises est absolument vitale. Un an plus tard, a lieu la fameuse affaire de Montpellier, où le prophète Visson, est arrêté dans une assemblée secrète. Il est pendu et huit femmes qui assistaient à l'assemblée clandestine sont reléguées à la tour de Constance, où déjà se trouvent 9 femmes qui ont été arrêtées en 1720. Donc 9 et 8, ça fait 17 femmes qui sont enfermées à cette période-là dans la tour de Constance. Le 14 mai 1724, nous l'avons vu, Louis XV prend ses fonctions de roi et il commence par confirmer la révocation de l'édit de Nantes. Rappelant que les personnes qui seront prises dans des activités clandestines seront passibles soit des galères pour les hommes, soit de prison à vie pour les femmes. Bon, on va peut-être s'arrêter là, si vous voulez, pour ce soir, puisque l'heure est passée, et ensuite on verra la prochaine fois l'emprisonnement de Marie à la tour de Constance. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? Je peux te rendre une seconde.